Tour du monde, ville monde de l'été, dernière escale avant la rentrée sur France Culture. Cap sur la célèbre université américaine, Harvard. Après le mythe, la formation d'une élite, passeport pour l'excellence. Harvard, ville monde, seconde escale, bon voyage sur France Culture sans frontières.
We don't have too much French, but a little bit French. I don't know if you read any book like these books before.
Nous n'avons pas beaucoup de livres en français. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce genre de livres, comme celui-ci par exemple de Mao.
But we do have some of these, because China printed them in different languages. I don't know if you ever read that in your education.
Je ne sais pas si vous avez lu des textes comme ça durant votre scolarité, mais à une certaine époque, tout le monde lisait ce genre de choses.
Let's not even think about it. That would be,
maintenant, ce que propose Mao n'est plus possible. Ça serait une tyrannie.
What about yourself? What are your hopes for the world? What do you think needs to happen?
Et vous, vous en pensez quoi?
Well, I think you have to imagine, not to go back to the past.
Qu'espérez-vous du monde de demain?
Without everything being based on the market.
Moi, je pense qu'il ne faut pas imaginer retourner en arrière, mais plutôt penser à notre avenir. Qu'est-ce que le marché favorise aujourd'hui?
Make a life.
S'il s'agissait simplement d'être humain et d'essayer de trouver des moyens pour se créer une vie sans que tu sois lié au fric.
Ce serait plus facile pour cette librairie communiste d'être à Boston et non pas à Cambridge?
Non,
je ne pense pas, ça revient au même. Ce qu'il y a avec les étudiants d'Harvard aujourd'hui, c'est qu'on leur dit « voici le monde d'aujourd'hui, maintenant vous devez vous y conformer ».
How can I create an enterprise?
Il y a 30 ans, les gens disaient, voici le monde, changeons-le. Aujourd'hui, les gens pensent, comment pourrais-je créer une entreprise qui va à la fois me rapporter de l'argent et me rendre heureux dans le monde tel qu'il est, sans faire l'effort de le changer? C'est cet état d'esprit qui caractérise la société d'aujourd'hui. Et je dirais que toute cette connaissance et cette intelligence est en quelque sorte gâchée.
Have you taught to very many students?
Yes, and teachers too.
Well, good luck with your interview.
Thank you.
Here's our card if you want to look up the website.
Thank you. Okay, thank you. All right.
What the people want is very simple. They want an America.
Ville monde, Harvard, la formation d'une élite.
As good as its promise.
Harvard Voices, excerpts from major addresses by public figures and creative artists, as well as the reflections of notable Harvard scholars, are included.
It is the part of Harvard and America.
President Franklin D. Roosevelt.
To stand for the freedom of the human mind and to carry the torch of truth.
Then Senator John F. Kennedy addressed the Harvard Alumni Association in Harvard Yard.
I do not say that our political and public life should be turned over to experts who ignore opinion. But I would urge that our political parties and our universities recognize the need for greater cooperation and understanding between politicians and intellectuals. If more politicians knew poetry and more poets knew politics, I am convinced the world would be a little place in which to live on this commencement day of 1956.
As the High Sheriff of Middlesex County, I declare that the meeting will be in order!
Le sentiment d'appartenance à Harvard est entretenu et célébré par plusieurs rituels. Dont celui du commencement. La cérémonie de la remise annuelle des diplômes après 4 ans d'études chante les louanges de ce concentré d'excellence qu'est le campus. Sur le campus de cette université américaine à Cambridge, Massachusetts, les enjeux politiques sont nombreux. La scolarité est chère et l'université généreuse en termes de bourses, donc elle a besoin de récolter de l'argent et mène pour cela des campagnes efficaces. Dans cette ville en réduction, des communautés se forment en fonction des opinions politiques et des origines des uns et des autres. Enfin, l'université éduque une élite économique et intellectuelle soudée par un esprit de corps qui peut faire grincer des dents. Jean-Paul Viguier, vous êtes architecte. Vous êtes né en 1946. Vous avez fait vos études d'architecture à Paris, aux Beaux-Arts, dans les années 60. Et au début des années 70, vous êtes parti aux États-Unis, à Harvard. Pourquoi vous êtes parti là-bas ?
Ben, j'ai fini les études d'architecture en France d'une manière bizarre. J'ai l'habitude de dire en queue de poisson, puisque j'étais à peu près aux deux tiers de l'école des Beaux-Arts en 1968. Et donc mes études se sont arrêtées soudainement. Et comme j'avais une fascination pour l'Amérique, dont on me parlait beaucoup, et évidemment beaucoup de professeurs, d'architectes célèbres que j'avais appris à connaître pendant mes études étaient américains, et j'avais envie d'y aller. Et le hasard a fait que j'ai été retenu par ce qu'on appelle la Sachs Fellowship, qui est une bourse fondée par M. Sachs en 1952, qui a mis un fonds important sur Harvard et qui, dans l'idéal de l'amitié entre les jeunes français et les jeunes américains, et qui donc tous les ans envoie 3-4 Français étudier à Harvard dans des conditions financières très agréables. Voilà. Et donc je suis parti début 71 à Harvard avec une Sachs Fellowship pour 2 ans d'études dans un diplôme qui était un Master of City Planning and Urban Design. Je suis arrivé à Boston là après qu'en 69 ait eu lieu ce qu'on appelait les riots aux États-Unis. Donc l'université avait été très très bouleversée. Il y avait une phrase qui courait à Boston à ce moment-là, c'était « The crimson blood has defiled », c'est-à-dire le sang rouge avait coulé. Quoi. Donc il y avait vraiment eu des événements violents à l'université. Donc je revivais une deuxième fois, à 2 années de distance, la même situation, et les conservateurs l'avaient emporté. Et les professeurs progressistes, comme Robert Venturi, ou Christopher Alexander, ou Charles Moore, etc., tous les professeurs progressistes qui représentaient la nouvelle tendance, etc., étaient partis. Et ils étaient allés, évidemment, en Californie. Donc on les retrouvait tous à Los Angeles, à Berkeley, etc. Et donc Harvard était quand même, quand je suis arrivé, assez déprimé. Quoi. Et j'étais parti de Paris d'une certaine manière pour fuir la période post-corbusienne, et je me suis retrouvé avec un doyen qui était Jerzy Soltan, ancien collaborateur de Le Corbusier. Quoi. Donc ça c'était un signe du destin qui était quand même assez redoutable pour moi. Quoi. Voilà.
Le puritanisme à Harvard, Jean-Paul Viguier, il se traduisait comment dans les années 70?
Il y avait une certaine raideur de l'enseignement, dans la langue, dans le rapport des sexes. C'était une grande tradition américaine, puritaine, était vraiment présente partout. À l'école d'architecture où j'étais, par exemple, il y avait très peu de filles. Donc c'était une école essentiellement masculine à l'époque. Bon, ce qui était bien dommage, parce qu'au Beaux-Arts, à l'époque, alors par contre, 68 avait fait du bien, puisque les filles étaient rentrées massivement à l'école des Beaux-Arts, ce qui était une bonne nouvelle, mais pas trop Harvard, quoi. Donc c'était très, très rigide. Bon, j'avais un tuteur, comme ça à Harvard, vous avez un tuteur, donc on m'avait désigné un tuteur, qui était en même temps le chef du programme de Urban Design, qui était l'arrière-petit-neveu du général von Moltke, le général prussien. Donc c'était un type d'une raideur absolue, donc il avait le puritanisme américain plus la raideur prussienne, donc vous voyez ce que ça faisait. Donc voilà, donc j'ai appris l'anglais correctement quand même, et j'ai appris aussi à l'écrire sans faute, quoi. Donc j'ai été de ce point de vue bien dressé quand même.
We've certainly not come to work and study in Cambridge and Boston because of the weather.
L'historienne Drew Faust est depuis 2007 la doyenne de Harvard. Elle est la première femme à occuper ce poste.
For nearly 4 centuries now, Harvard has been inventing the future. History encourages us to see contingency and opportunity by offering us the ability to imagine a different world. History is where the future begins. Thank you very much.
Voilà, il y a un long passage qui est l'ouverture de ce livre, donc Guerre à Harvard de Nick McDonnell.
D'accord.
Et ça s'ouvre sur un passage que j'aimerais bien que vous lisiez.
Ah bah, si vous voulez. Dans le gymnase Hemingway de la faculté de droit de Harvard, il doit y avoir 25 tapis de course constamment utilisés. Ce sont des machines remarquables, noires, brillantes, presque silencieuses, des outils de luxe au service de la santé et de la vanité. Chacun est doté d'un écran plat diffusant les meilleures chaînes du câble. Les coureurs sont eux-mêmes remarquables. Hemingway est considéré comme la meilleure salle de sport ouverte à la population non universitaire. tout le monde est en forme. Aucun regard ne se croise, bien que l'endroit fourmille d'une énergie sexuelle alimentée par le balancement de queues de cheval humides. Les athlètes, vêtus de shorts moulants estampillés Harvard, de t-shirts Sauver le Darfour ou de joggings aux couleurs des New York Knights, semblent être de jeunes gens extrêmement sérieux, acquis à la cause de l'esprit sain dans un corps sain. Beaucoup, tandis qu'ils courent sur place, regardent les infos. L'info, c'est toujours l'Irak. Si l'on se tient au fond de la salle, près des cours de squash blanc aux normes olympiques, on peut observer cette élite courir sur place devant un des nombreux reportages. Bombes artisanales explosant, reporters équipés de gilets pare-balles sur leurs chemises en coton, ou l'éternel enfant en sang qu'on porte dans les bras. Si on revient le lendemain, on verra les mêmes personnes courant au même endroit, regardant les mêmes horreurs. Sauf que ces horreurs empirent de jour en jour. Bien sûr, tout le monde ne s'intéresse pas à la guerre. Pour chaque amateur de journal télévisé, il y a un amateur de sport et un amateur de série. Mais ceux qui regardent le JT sont les plus intéressants. Et ici, dans la plus prestigieuse salle de sport de la plus prestigieuse université. Savoir ce qu'ils pensent n'est pas seulement difficile, mais crucial, parce que, parmi ces jeunes gens qui regardent les informations, certains espèrent en devenir un jour les acteurs, et parfois, à raison. C'est du moins ainsi que ça se passait dans la promotion 2006, ma promotion. Oui, alors c'est très amusant parce que figurez-vous que j'étais à Hemway, pas plus tard qu'hier soir, à 18h, en train de courir sur un de ces tapis de sport noir en regardant le JT. Alors je me sens un peu mal maintenant. Non mais c'est très drôle. Oui, mais c'est très réaliste. Hein. C'est vrai que c'est assez perturbant, ce décalage. Enfin, moi j'ai commencé à faire du sport en salle ici, c'est une grande passion. Hein. Et ce décalage entre ce qu'on regarde sur ces écrans qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder en courant et puis l'environnement dans lequel on évolue ici, quoi. Extrêmement protégé, extrêmement préservé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, Harvard a sa propre police. Puis je pense qu'il y a même des gens en civil qui font des tournées régulières. C'est qu'un exemple parmi plein d'autres. C'est un exemple concret, mais on est préservé aussi mentalement. Enfin, tout est fait pour le confort des étudiants. Hein. Ils ont chacun un tuteur, ils ont chacun toute une série de... Oui, ils ont un tuteur académique, ils ont un tuteur aussi pour leur vie sociale, mais qui s'occupe vraiment de eux, hein, et qui les connaissent puisqu'ils vivent dans les résidences. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est un vrai cocon, quoi. Et donc, je comprends le décalage avec les informations, effectivement, en pleine guerre d'Irak.
Vous sentez, Samuel, que l'identité du campus, elle est... l'université fait tout pour que les étudiants s'en imprègnent et pour qu'ils s'attachent à cette université.
Oui, et ils s'identifient totalement, d'ailleurs, en général, à cet esprit de corps. Il y a très peu de... rébellion vis-à-vis de cela, et ça c'est quelque chose de très différent par rapport à mon expérience française où dans mon université, enfin les universités où que j'ai pu fréquenter, souvent il y a une certaine défiance ou distance en tout cas des étudiants vis-à-vis de l'administration, hein, et on aime bien faire la grève, etc., etc. Ici, des grèves, il y en a une fois tous les 50 ans, et alors qu'il y aurait des sujets de grève. Hein, et puis, effectivement, on a l'impression qu'une fois que ces étudiants ont eu la chance et de pouvoir être admis à Harvard, et ils ont aussi choisi d'y aller plutôt qu'à Stanford ou à Yale, parce que souvent, quand on est admis à Harvard, on peut être admis à peu près partout ailleurs. Ils ont fait ce choix et ils s'y tiennent. Et bon, et le fait de vivre aussi complètement en vase clos sur le campus, ça va accentuer leur conditionnement, je dirais. Et donc, il y a un esprit de corps qui va, je pense, perdurer même après la fin de leurs études. Hein. Et, par exemple, les anciens élèves, les sociétés d'anciens élèves sont très puissantes aussi. Hein. Et ce sont des réseaux très, très puissants, très utiles pour leur vie professionnelle et sociale par la suite.
Franco-américain, Michel Antebi est professeur associé et enseigne la sociologie à Harvard Business School, sur laquelle il vient de publier un livre, Manufacturing Morals, la fabrication de morale. Il y écrit, après avoir étudié le fonctionnement d'une usine, pourquoi ne pas écrire une ethnographie de Harvard Business School, m'avait dit en plaisantant ma directrice de thèse. Après quelques mois à Boston, je comprenais qu'elle avait touché juste. Je venais de terminer une étude sur une usine aéronautique
et j'étais surpris de trouver plusieurs points communs entre l'usine et mon nouvel employeur. Comment vous pouvez qualifier, Michel, la différence d'atmosphère entre la Harvard Business School, ce campus-là, et ce qui se passe de l'autre côté de la Charles River, lorsque l'on est soit dans les rues où il y a les maisons, les résidences d'étudiants, soit sur le yard?
Alors, c'est la Harvard Business School est intrigante parce qu'elle a grandi à une époque où il y avait un réel projet pour moraliser la conduite du commerce. Et c'est surprenant, et on l'oublie aujourd'hui, mais si on remonte aux origines de cette école, il y avait un réel projet moral. Et à mon sens, quand on traverse la rivière, on sent ce désir d'organiser le monde, si on veut. Dans la manière dont les flots de circulation sont organisés, on se rend compte qu'il y a une ingénierie sociale. Tous les chemins à HBS sont légèrement inclinés, de manière à donner une perspective de petite ville en bon standing, hein, c'est le cas. Alors que quand on va dans le yard, c'est des grandes allées qui nous amènent de A à B de manière très directe et où on peut voir en perspective le bout de l'allée. Ici, ce n'est pas le cas parce qu'il y a ce projet social qui sous-tend l'école. Donc ça, c'est un exemple de différence.
Comment vous avez été recruté par l'école pour y enseigner ?
On devient professeur ici comme on devient professeur dans n'importe quelle université américaine, c'est-à-dire qu'on finit sa thèse, on a un papier de thèse qu'on présente. Dans mon cas, je pense qu'il les a attirés, c'est que je faisais du travail en usine et qu'il y a peu de chercheurs aux États-Unis qui font encore des terrains en usine et que ça, c'est plutôt une spécialité française, si on veut.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
Donc j'avais fait un travail qualitatif dans une usine aéronautique en France sur la déviance au travail, si vous voulez. Et donc j'avais des entretiens avec des gens en usine qui avaient plus ou moins volé du matériel et la manière dont ils justifiaient leurs actions. Et on se rendait très vite compte que c'était pas du vol, c'était une manière d'exister dans un monde qui était de plus en plus standardisé. Et où ils perdaient leur métier et ils voulaient produire des objets. Donc en fait, ces objets n'étaient pas du vol, c'était des productions artisanales qui ramenaient à la maison pour exister dans un monde qui était de plus en plus difficile pour eux. Et ça a intéressé l'école parce qu'il y a eu énormément de travaux au moment de l'industrialisation qui ont été faits à Harvard Business School.
Et ici, vous avez une devise ? Il y a une devise ?
Alors ici... On a une mission qui est « Educating leaders to make a difference », c'est-à-dire enseigner à des leaders à avoir une différence dans le monde.
Mais ça a été énoncé quand ? Dès la création de l'école ?
Non. Alors ça, c'est plus récent. C'est une stabilisation, si vous voulez, de la doctrine. Mais au début, ce qui a caractérisé l'école, c'était « to ». Alors je l'ai au-dessus de mon bureau. Il me semble. Donc ça, c'était les mots du premier doyen de l'école. Business is the job of making things to sell at a profit decently. Donc le commerce équivaut à produire des biens pour vendre avec un profit décemment. Et c'est le dernier terme, decently, qui est un peu le fil conducteur de cette école depuis cette époque.
C'est-à-dire que vous leur apprenez à être des entrepreneurs qui ont une éthique ?
Tout à fait. Alors, je pense que c'est exactement l'espoir de cette école. Voilà.
Et il est satisfait ?
Alors, s'il est satisfait ou pas, ce n'est pas à moi de juger. Je pense que c'est à nos élèves, au public de manière plus générale, aux sociétés dans lesquelles ils opèrent. Et tout ce que je peux décrire, c'est un processus et un espoir. S'il est réalisé ou pas, je vous laisse le décider pour vous-même.
Lorsque vous avez commencé à enseigner, vous avez dû, vous aussi, vous apprendre certaines règles, certains rituels.
C'est un univers qui est saturé de codes et qui est aussi très silencieux sur ce qu'il faut faire lorsqu'on y enseigne. Donc j'ai un collègue qui n'est pas ici, mais qui me parlait du magic ring, c'est-à-dire de la bague magique qui était nécessaire pour déchiffrer les rituels ici. Et venant de France, venant de New York et d'une autre université, je n'avais pas cette magic ring. Mais très rapidement, on l'apprend, parce que si on ne l'apprend pas, on trébuche. Donc les autres enseignants, les élèves nous apprennent comment être prof, puisqu'on ne sait pas comment être prof. Et ça, c'est un processus de transformation qui est assez unique, je pense. Quand on va en cours pour enseigner et qu'on enseigne des choses que les élèves estiment être propres à leur univers et correspondre aux attentes de cette institution, donc ils nous remercient en permanence de ce qu'on a fait, ils applaudissent en fin de cours, ils viennent nous voir pour nous donner du feedback sur notre performance. Et c'est ce genre de signes qui nous transmettent, qui nous permettent de nous ajuster à cet environnement. La première fois où j'ai été enseigné ici, je ne savais pas comment m'habiller. Puisque en France, on ne se pose pas tellement la question, si on est prof, de l'habillement en cours. Et l'un de mes collègues, qui est maintenant en retraite, m'a dit, pour te simplifier la vie, il suffit d'aller chez Brooks Brothers, qui est une marque américaine assez connue pour des chemises et pour des costumes. Et effectivement, quand on va chez Brooks Brothers, la vie devient simple, puisqu'on n'a plus à se poser de questions sur les attentes des étudiants, de ce que peut représenter un professeur d'HBS.
Les étudiants, quel est leur uniforme ?
Alors, eux ont... donc, les 900 étudiants sont divisés en sections de 90, et chaque section est connue par une lettre. Donc, la section A, B, C, D, et leur année de diplôme. Et ils ont des vestes qui correspondent à leur section année. Donc, quand on se balade sur le campus, ici, on peut voir quelqu'un avec section A, 2013, et on sait exactement dans quelle section et à quel moment il quittera l'école. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'on porte ces vestes. J'essaierai de vous en obtenir une, si vous voulez.
Please rise as Officer Stephen McNulty of the Boston Police Department leads the singing of the national anthem.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming.
Vous connaissez l'un ou l'autre une petite librairie qui s'appelle Revolution Book, qui est tout près d'ici, qui est après Harvard Bookstore. C'est une petite librairie communiste qui est en haut d'un immeuble. Il faut prendre un petit escalier.
Ah, c'est sympa, ça. Ça va. J'allais faire un petit tour.
Ça peut être politiquement intéressant qu'on y aille. On va discuter avec lui. Je vois pas les États-Unis devenir un pays communiste dans les prochaines années, mais peut-être qu'il a espoir.
The law school?
Yes.
Yep, it's straight up that way. See that building with all the columns over there? That's where it is.
Thank you very much.
You're
Bye.
Welcome. Bye.
My name is Randall Kennedy. I am
Je m'appelle Randall Kennedy et je suis professeur à la faculté de droit de Harvard. Je travaille à Harvard depuis 28 ans et je donne des cours de droit des contrats, de droit pénal et des cours sur les lois liées à l'histoire de la discrimination raciale.
Randall Kennedy, dans une introduction à un livre intitulé « Les Noirs à Harvard », Vous avez écrit que l'histoire des Noirs sur ce campus reflétait l'histoire des Noirs aux États-Unis. Pourquoi à Harvard en particulier ?
Harvard est une immense université, merveilleuse, une université formidable, mais aussi une université qui reflète les points forts et les points faibles de la démocratie américaine. Et de la même façon que la discrimination raciale et l'oppression des Noirs font partie de l'histoire des États-Unis, il y a eu des discriminations et une oppression des Noirs à Harvard.
Vous avez divisé l'histoire des Noirs à Harvard en trois périodes.
Oui, avant la guerre de sécession, lorsque l'esclavage était en vigueur aux États-Unis, il n'y avait aucun étudiant noir à Harvard.
Then there was the long period of segregation.
Ensuite, pendant la ségrégation raciale qui a duré jusqu'aux années 60,
were there blacks here at Harvard? Yeah, there were a few.
Où il y a eu quelques Noirs à Harvard. Enfin, il y en avait-il vraiment? Oui. Il y avait quelques étudiants Noirs, mais ils étaient plutôt issus d'un milieu aisé, peu nombreux et assez isolés. Ces étudiants Noirs subissaient des discriminations terribles.
Et puis, la troisième période est depuis la late 1960s. And since the late 1960s,
enfin, depuis les années 60, nous pouvons parler d'une troisième période avec une présence notable des étudiants noirs ici. Tout comme d'autres grandes écoles aux États-Unis, Harvard a fait de grands efforts afin d'attirer des étudiants noirs, d'embaucher des professeurs noirs et ainsi d'intégrer réellement les Noirs américains dans sa communauté.
Part and parcel of the Harvard University community. Among the Ivy League universities, I bet it's the case that
je parie d'ailleurs que les étudiants noirs se sentaient mieux accueillis à Harvard que dans les autres universités de l'Ivy League.
Probably any of the other. Today as well, I think that's probably,
et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui.
Revenons un peu en arrière. Quelle forme les révoltes étudiantes à Harvard dans les années 60 ont-elles prises?
Ah oui, il y avait bien sûr des manifestations d'étudiants très importantes. Je pense qu'elles comptent probablement parmi les plus importantes.
Elles étaient plus importantes que celles qu'ont connues d'autres universités?
Non, il y a eu beaucoup de manifestations au sein de plusieurs universités américaines dans les années 60.
À Columbia en
1968, par exemple, mais aussi à Harvard. Notamment à la suite de l'assassinat de Martin Luther King Jr. Directement après son assassinat, les étudiants noirs de Harvard ont commencé à exiger des changements de la part de l'université qui ont profondément bouleversé son fonctionnement. Une de ces exigences, par exemple, était la création d'un département des études afro-américaines qui a eu un impact important sur la vie intellectuelle. Non seulement ici à Harvard, mais aussi partout aux États-Unis. Les manifestations ici, au sein de la faculté de droit, étaient d'une taille considérable. Et en toute honnêteté, elles ont certainement joué un grand rôle dans mon arrivée à l'université comme professeur. Je suis arrivé à Harvard en 1984 avec une bonne réputation, diplômé de la faculté de droit de Yale. J'y étais un membre de la revue de droit et j'écrivais régulièrement pour eux. Au vu de mes qualifications, je pense que j'aurais été de toute manière un bon candidat pour un poste ici. Mais je suis certain que Harvard voulait absolument me recruter en grande partie parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul professeur noir dans la faculté et cela rendait furieux les étudiants. D'ailleurs, les étudiants noirs ne sont pas les seuls à s'être révoltés. Les étudiants blancs exigeaient aussi que Harvard diversifie leur corps enseignant. Je suis alors certain que c'est ce désir de diversification qui a poussé Harvard à faire tant d'efforts pour me recruter.
Comment les universités américaines mettent en œuvre l'affirmative action? Alors, est-ce qu'elles sont libres
Vous savez que ça dépend des États dans lesquels les universités se trouvent. Chaque État a sa politique particulière. On assiste depuis plusieurs années à un détricotage des politiques d'affirmative action qui, petit à petit, au niveau fédéral, mais surtout au niveau d'un certain nombre d'États, sont abandonnées au profit de politiques qui sont considérées comme plus équitables, ou en tout cas c'est l'argument que l'on avance. Pour le reste, il s'agit, comme toujours, selon les lois en vigueur, de considérer que la race ou l'ethnicité est un des facteurs parmi d'autres pris en compte lors de l'examen des dossiers pour savoir si un étudiant peut avoir une place parmi les étudiants retenus.
In 1962, Dr. Martin Luther King Jr., soon to be Nobel Peace Prize laureate, delivered a speech to the Harvard Law School Forum.
This will be a great day. This will be that day when all of God's children all over this nation will be able to join hands, all men, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, and in the joining of those hands, they will be able to cry out and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
En 1999, Barack Obama est devenu le premier directeur noir de Harvard Law Review.
Oui, c'était vraiment incroyable. The Harvard Law Review, la revue de droit de Harvard, est la publication juridique universitaire la plus importante. Ce qui rend The Harvard Law Review si intéressante, c'est aussi qu'elle est dirigée par des étudiants. Il y a quelques décennies, Barack Obama a été choisi comme président de la revue. Et ce fut un moment historique. Je n'ai jamais eu Barack Obama comme étudiant, mais le bruit courait qu'il était très bon élève. Mes collègues parlaient souvent de lui en disant « J'ai un étudiant en cours avec moi qui est vraiment exceptionnel ». À tel point que plusieurs collègues voulaient le convaincre de devenir enseignant-chercheur en droit. Ils pensaient qu'il aurait été un professeur formidable. J'ai eu beaucoup d'étudiants brillants. À défaut d'avoir Barack Obama comme élève, j'ai eu sa femme, Michelle Obama, dans ma classe. Je me souviens d'elle. Elle m'avait d'ailleurs aidé dans mes recherches. J'ai aussi eu beaucoup d'autres étudiants tout à fait exceptionnels qui ont fait de belles carrières.
Je m'appelle Louis Sid. Je suis étudiant de troisième année ici à Harvard et je fais des études dans le gouvernement, sciences politiques et aussi dans l'économie. Et je fais des études secondaires en informatique. Et je suis de Houston, Texas. Mes deux parents sont venus du Mexique il y a 22 ans.
Vous avez fait un passage en France par le 42.
Oui, voilà. Donc j'ai étudié ma première S en France au lycée de Beauregard à Montbrison dans le 42. J'ai passé le bac de français là-bas. J'ai passé une année vraiment inoubliable, je dirais. Et j'habitais avec une famille très très sympathique. Je les appelle toujours. Donc c'est la famille Guerre qui habite à Saint-Romain-le-Puy. Voilà.
Lorsque vous arrivez, vous êtes très jeune, lorsque vous arrivez sur le campus, vous avez entre 17 et 18 ans.
Oui.
Les étudiants qui viennent d'un état très éloigné du Massachusetts, est-ce qu'ils ont un temps d'adaptation? Est-ce qu'il y a une mentalité ici qui est très différente ou peut-être différente de celle que vous avez au Texas?
Ben, je dirais que c'est une mentalité très différente. Oui, c'est un endroit très, très libéral en général, mais c'est aussi un endroit qui tolère toutes les opinions. Donc, moi, j'ai connu des gens qui étaient très, très athées ou très, très religieux, qui venaient de New Jersey, de la Californie, qui venaient de la France. Et on peut le voir dans les groupes des étudiants, on a des groupes qui représentent vraiment tous les points de vue. Donc, on a des groupes très, très conservatifs. On a aussi peut-être plus de groupes qui sont très, très libéraux. Et voilà, il y a un discours qui continue vraiment, quand on mange ensemble, qui continue dans le journal du campus, The Crimson, et c'est des discussions très importantes. Et avec, c'est un campus avec des gens qui ont des opinions très fortes parfois. Donc les gens, et c'est bien hein, parce que les gens s'expriment et ils font des manifestations ou ils écrivent des choses pour imprimer dans le journal, et c'est bien, mais parfois il y a des gens qui prennent des opinions tellement différentes de nous qu'il faut vraiment se poser des grandes questions. Donc très récemment, il y a une étudiante qui a publié quelque chose dans le journal
dans le Crimson,
en disant que l'action affirmative, c'est une chose qu'on a aux États-Unis pour aider ceux qui ont été exclus pendant très longtemps. Et elle a fait un argument comme quoi les étudiants qui ont été aidés par ces règles-là n'étaient pas aussi bons que les autres, et c'était vraiment un discours pas du tout sérieux académiquement, dans mon avis. Et elle a reçu vraiment beaucoup de réactions. Donc parfois, oui, c'est un peu, pas énervant, mais c'est un peu choquant de voir que les gens aient des opinions tellement différentes et mal informées, moi je dirais, parfois. Ceci dit, de l'autre côté, c'est bien parce que ça nous amène à avoir un discours sur tout le campus.
I'm Bobby Samuels. I'm the president of the Harvard Crimson.
Je m'appelle Bobby Samuels, je suis le président du journal The Harvard Crimson. Je suis en troisième année d'économie à Harvard. J'habite à Leverett House, une des 12 résidences du campus, et j'ai 20 ans.
The Crimson was founded in 1873.
Le Crimson a été fondé en 1873. C'est un groupe d'étudiants à Harvard qui l'a créé, et le siège du journal est installé dans ce bâtiment depuis presque 100 ans.
A little less than 100 years.
Comment fut choisi le nom du journal et que veut dire le mot Crimson?
The name of the Crimson has actually changed.
Le nom du journal a changé depuis sa création. Au départ, il s'appelait The Magenta. Par la suite, plusieurs journaux du campus ont fusionné et le nom du journal est finalement devenu The Crimson. Je ne suis pas certaine à 100%, mais je pense que ce changement a eu lieu lorsque la couleur Crimson, qui veut dire cramoisi, est devenue la couleur officielle de Harvard.
Qui sont les rédacteurs du journal? Seulement des étudiants?
Oui, la grande majorité des articles sont écrits par des étudiants, même si exceptionnellement d'autres personnes contribuent à un article. Le coach de l'équipe de basket de Harvard, par exemple, a écrit une lettre publiée dans le Crimson afin de remercier la communauté pour avoir soutenu l'équipe. Mais cela n'arrive que rarement. La grande majorité sont écrits par des étudiants du collège.
Quels sont les objectifs du Crimson?
Il me semble que le journal a deux objectifs principaux. Le premier est de fournir un journal de qualité qui publie les informations essentielles dont la communauté d'Harvard a besoin et qui informe également les gens du monde entier qui s'intéressent de plus en plus à Harvard. Le deuxième objectif, à mon avis, est de former les étudiants qui travaillent pour ce journal. Cela permet de former la prochaine génération de journalistes et de penseurs afin qu'ils puissent être les meilleurs plus tard.
Vous voulez devenir journaliste?
Ce n'est pas ce que j'en ai en tête à ce moment, parce que je pense que c'est une période difficile pour entrer dans ce secteur. Cependant, je trouve le secteur des médias très intéressant et je pourrais m'imaginer y travailler à un moment donné de ma vie sans toutefois avoir des plans bien précis.
Avec quel argent vous financez le Crimson?
Avec les dons d'anciens élèves. Nous avons la chance d'avoir un réseau d'anciens très actif. Le Crimson a formé beaucoup de journalistes réputés et des personnes qui ont excellé ensuite dans plusieurs domaines d'activité. Nous avons par exemple parmi nos anciens contributeurs deux présidents des États-Unis, des dirigeants d'entreprises, etc. Le réseau d'anciens élèves, qui est très puissant, tient à faire des dons pour financer les activités de l'université et les bourses des étudiants.
C'est un journal démocrate, le Crimson?
Je pense que le journal est plutôt un journal de gauche, si vous regardez les candidats qu'il a soutenus, Barack Obama ou Elizabeth Warren pour le Sénat, par exemple. Cependant, les étudiants qui travaillent pour le Crimson sont tolérants et ouverts d'esprit. Et bien que le journal penche à gauche, je trouve que par rapport aux étudiants typiques d'Harvard, de gauche, notre équipe reste centriste et modérée.
Sylvie Laurent, vous lisez le Crimson lorsque vous êtes sur le campus. Qu'est-ce que vous en pensez si vous le lisez?
Alors, le Crimson est très intéressant parce que c'est le journal tenu par les étudiants de Harvard. Il y en a d'autres, il y a aussi la Harvard Gazette. Mais ce qui est plus amusant avec le Crimson, c'est que c'est un journal qui est tenu par les plus jeunes des étudiants, ceux du college. Et donc, les plus jeunes, les postes sont réservés pour eux. Donc, ils ont un regard extrêmement frais et parfois beaucoup plus séditieux, beaucoup plus ironique sur ce qu'ils voient à Harvard que d'autres journaux que l'on peut trouver sur les campus. On y apprend beaucoup de choses de ce qui se passe et ils n'ont pas peur de mettre en cause la hiérarchie, les révoltes des étudiants ici ou là contre certains enseignants, les scandales. C'est une lecture très, très instructive, le Crimson.
Il y a eu un scandale récemment, Sylvie Laurent.
Ah, il y a eu beaucoup de scandales ces dernières années, de controverses en tout genre. En ce moment, Harvard se remet à peine de la plus grande histoire de plagiat de l'histoire des universités américaines qui a dégénéré parce que des étudiants qui devaient passer un examen à la maison se sont, semble-t-il, aidés les uns les autres. L'enseignant a été mis en cause pour la nature de l'examen qu'il a donné. Et puis ensuite, un des étudiants a fuité auprès de la presse de Boston de ce scandale qui devait rester méconnu et confiné à l'enceinte de Harvard. Et la responsable du college, la dean du college, s'est autorisée à regarder dans les mails professionnels et privés d'un certain nombre d'employés pour savoir si on pouvait déterminer qui était l'étudiant qui avait fuité. Bref, cette histoire a eu un retentissement assez considérable et la dean du college en question a démissionné pour avoir espionné certains de ses employés. Voilà, donc c'est une des péripéties que connaît Harvard. Il faut dire depuis la démission fracassante il y a quelques années de son président Larry Summers, qui avait créé beaucoup, beaucoup de controverses, non seulement en démissionnant après avoir affirmé que les femmes étaient biologiquement moins prêtes aux études scientifiques que les hommes, donc d'un sexisme absolu, mais qui en plus du temps où il était président s'était mis à dos beaucoup de gens, notamment le département africain-américain, qui avait des idées extrêmement réduites et restreintes de la façon dont il voulait gérer son université. Et donc voilà, et depuis le départ de Larry Summers, il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires compliquées sur le campus d'Harvard.
Microsoft founder and philanthropist Bill Gates delivered the 2007 commencement address on receiving an honorary degree 30 years after dropping out of Harvard College.
I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. I want to thank Harvard for this honor. I'll be changing my job next year, and it will be nice to finally have a college degree on my resume. For my part, I'm just happy that the Crimson called me Harvard's most successful dropout. I guess that makes me valedictorian of my own special class. I did the best of everyone who failed. I'm a bad influence. That's why I was invited to speak at your graduation. If I'd spoken at your orientation, fewer of you might be here today. Please stand and join me now as we sing Fair Harvard. The words are included in your program.
Federal Reserve Chairman Alan Greenspan.
You have already made the best investment there is, education. A crucial challenge of education is to transform skills and intelligence into wisdom, into a process of thinking capable of forming truly new insights.
We are one people living on one planet.
Former Vice President and Nobel Peace Prize recipient Al Gore.
We have a very few short years within which to make a dramatic change in the way we organize and conduct global civilization.
Michel Delorme.
l'autre côté de la Charles River, lorsqu'on est sur le campus du collège, enfin sur le Harvard Yard, on est plutôt en terrain démocrate. Est-ce que c'est la même chose ici, à la Harvard Business School?
Alors, les études des corps enseignants et de la politique tendent à montrer qu'en fait, tous les facultés sont assez démocrates. Et c'est vrai aussi à HBS. Je pense que notre corps étudiant est plus divisé peut-être que dans d'autres écoles, mais je ne suis même pas sûr. Donc c'est là où, de nouveau, les politiques de l'école sont assez silencieuses. Et l'idée, c'est de ne pas avoir un parti pris trop ferme, puisque ça fermerait d'autres portes pour certaines personnes. Alors, parmi mes collègues, j'ai par exemple des gens qui viennent de l'armée, j'ai des gens qui sont d'un groupe politique qui est différent du mien, et tout ça vit en silence dans l'école.
Alors, ils ne l'affichent pas, leur couleur politique.
En silence, ouais. Au sens où on n'en parle pas tellement. Voilà. Si on a des relations personnelles avec certaines personnes, on sait où ils sont, mais ce n'est pas un sujet de grande discussion ici.
On behalf of the Harvard Alumni Association, I give a warm welcome.
Le choc culturel en arrivant à Harvard, il était fait de quoi pour vous qui veniez du Canada?
Un peu de cet esprit un peu puritain, protestant, dont il reste des traces. J'essaie de me rappeler, parce que ça fait très longtemps, vous savez, maintenant le choc culturel, c'est quand je retourne. Ben, pour moi, c'était, ça c'est plus spécifique, mais en 2002, on était dans le pire des années Bush. Et donc, c'était une situation politique très particulière d'être dans un endroit qui est un des bastions de la gauche aux États-Unis. Cambridge, Massachusetts, c'est souvent caricaturé comme étant « the People's Republic of Cambridge », donc le pseudo-communiste, etc. Et ici, l'opposition à la guerre en Irak et à Bush, etc., était très, très forte et les gens étaient très susceptibles, étaient très irrités, en fait. Donc, j'ai vu un peu ce moment qui maintenant semble très distant dans l'histoire américaine, mais je l'ai vécu. Ça, c'était très étrange, venant du Canada, où il n'y a pas cette polarisation au niveau politique entre gauche et droite. C'est mon souvenir principal de cette époque-là, 2002-2003, c'était qu'au niveau politique, ça débattait très fort. Les gens ici étaient très passionnés dans leur opposition, en général, aux politiques du gouvernement fédéral de l'époque.
Y compris les étudiants qui n'étaient pas américains et qui venaient d'autres pays, ou qui venaient d'États non démocrates.
Oui, il n'y a pas une uniformité. On le déplore parfois. Je crois que les étudiants qui se situent plus à droite se sentent en situation minoritaire sur le campus et ils déplorent parfois dans la presse étudiante, etc., qui est une pensée un peu uniforme, une pensée de groupe sur le campus. Mais il y a des voix dissidentes, enfin il y a des professeurs qui sont très présents, qui représentent des voix, que je dirais au moins de centre-droite, et qui se font entendre.
Généralement, ce sont des professeurs de quoi ?
C'est souvent des professeurs d'économie, de sciences politiques, etc. En littérature française, c'est un peu différent, mais bon.
La politique est moins importante pour le département de littérature.
Je crois. Enfin, on a été politisé pas mal, justement, dans ces années Bush, parce qu'il y avait c'était un mouvement d'opposition, c'était un mouvement de réaction et même de consternation face à ce qui se passait. C'était ma première année ici quand l'invasion de l'Irak a été déclenchée, etc. Je me souviens que certains professeurs ont annulé leurs cours. Soit qu'ils voulaient faire une action politique, ou enfin bon, c'était une période intéressante. On a connu ça un peu plus récemment avec l'année dernière, c'était Occupy. Il y a eu un petit mouvement Occupy Harvard. Certains profs l'ont supporté. Beaucoup étaient indifférents. D'autres ont exprimé plus de scepticisme ou d'opposition.
Il était particulièrement fort à Harvard, plus que dans d'autres campus.
C'est-à-dire qu'ici, il y a eu une occupation du campus avec un peu de camping, vous savez, les gens ont érigé des tentes, etc. Et ça a fait un peu les nouvelles, les manchettes nationales, parce que, bon, quand c'est Harvard, il y a souvent des échos dans la presse américaine. Et aussi parce qu'il y a une décision très controversée de l'administration de fermer le campus, c'est-à-dire de fermer, vous savez, il y a une grille qui fait le tour du campus, et en évoquant des raisons de sécurité, l'administration a décidé de fermer ces grilles qui, en général, sont ouvertes toute la journée.
Les touristes peuvent rentrer.
Les touristes peuvent rentrer, tout le monde peut rentrer. Mais quand il y a eu Occupy Harvard, ils ont fermé jusqu'à ce que les manifestants décident de partir. Bon, il y a beaucoup d'étudiants. C'est les premières années qui dorment sur le campus. Donc, il y a des. On nous a évoqué beaucoup ces security concerns, vous savez, questions de sécurité. On a beaucoup parlé de Occupy Harvard l'an dernier. Cette année, ça a un peu disparu.
Le silence, vous le racontez dans votre livre, Michel Antebi, c'est aussi le silence sur le campus. Il n'y a pas de voiture, comme de l'autre côté de la Charles River. Et vous écrivez que de temps en temps, il y a des limousines.
Alors, de temps en temps, mais ce qui est intéressant avec les limousines, c'est qu'elles ne viennent pas sur le campus. Elles viennent à la périphérie du campus déposer des gens. Parce que le campus, c'est comme un lieu sacré, cette petite ville où on se pose et on vit dans un monde qui est très isolé par rapport au reste de l'environnement. Les gens qui viennent en voiture, en général, sont des invités, donc des anciens élèves souvent, qui ont réussi, qui sont célèbres et qui reviennent sur le campus pour donner un talk ou discuter de leur carrière. Par exemple, Bloomberg, qui est le maire de New York, et un de ses anciens élèves de l'école.
Quels sont les autres rituels de la vie des étudiants à la Harvard Business School, Michel?
Alors,
à part la veste.
À part la veste. Alors,
et les réunions.
Un autre rituel qui m'a toujours beaucoup intrigué, c'est que chaque année, une section va décider de récolter des fonds pour une cause spécifique. Et lors de cette récolte de fonds, qui est assez importante d'ailleurs, ils demandent à tous leurs professeurs de donner un cadeau, donc une vente aux enchères. Et alors c'est un moment merveilleux où chacun essaie d'imaginer quel est le cadeau le plus précieux qu'on peut donner à un étudiant et qui va récolter le plus d'argent pour la cause. Et de nouveau, alors le rite, on ne sait pas, quand on débarque dans cet univers, on se demande qu'est-ce que je donne.
Vous donnez quelque chose que vous achetez ou quelque chose qui est à vous, que l'étudiant va vendre pour obtenir de l'argent?
Alors, je pense qu'il est de mauvais ton d'acheter quelque chose et de le donner, voilà, pour être clair. Donc, il faut donner quelque chose qui est à nous. Alors, quand j'ai été voir mes collègues au début, ils m'ont dit, c'est très simple, tu donnes un dîner français, puisque tu es français. Et donc, tu vends aux enchères un dîner français. Le problème, c'est que je ne cuisine pas, et mon conjoint, pas tellement. Bon, mais on a quand même essayé de faire un dîner français. Et sinon, on peut donner une leçon, par exemple, de français. On peut donner des vacances à Paris, si on a un endroit qui peut servir à ça. Donc, il faut essayer d'inventer des choses qui sont propres aux profs et qui peuvent plaire aux étudiants.
Michel, un étudiant nous a dit que, un ancien étudiant qui maintenant est devenu assistant professeur, nous a dit que pour les étudiants de Harvard, il y avait le moment où on lâchait la bombe H. C'est-à-dire le moment où un étudiant dit qu'il est étudiant à Harvard et lit dans les yeux de son interlocuteur qui ne l'est pas l'admiration ou l'étonnement. Et c'est un moment qui peut être désagréable. Est-ce que lorsque vous qui êtes professeur, vous avez aussi ce moment où vous lâchez la bombe H?
Alors, il est vrai que j'essaie d'éviter de lâcher la bombe H de manière générale, sauf quand on vient me poser des questions comme vous le faites. Mais j'ai une collègue à une autre université qui m'a dit que chaque fois qu'elle venait ici, tout le monde était extrêmement poli.
Et elle est dans une université américaine?
Américaine, qui n'est pas Harvard. Et je lui ai dit, je pense que tout le monde est très poli parce qu'on essaye de se défendre contre la bombache. Même si on ne sait pas ce que c'est, on se rend compte que quand les gens viennent ici, on doit faire très attention parce que tout est interprété de manière parfois aiguë, sans qu'on s'en rende compte ou sans qu'on sache pourquoi. Donc cette extra-politesse qui est propre à Harvard et peut-être la défense qu'on a contre la bombage qu'on ne connaît pas, mais dont on nous parle.
Parce que c'est un lieu mythique et que nous tous nous collons sur Harvard ou sur la Harvard Business School des images de réussite sociale ou des secrets. Enfin, on peut fantasmer sur les secrets, sur l'argent de l'université.
Alors, c'est... je crois que le mythe est entretenu par les réussites des anciens élèves. Et c'est ça qui permet d'entretenir ce réseau et cette image de réussite. Quand on est au centre du mythe, on a du mal à le voir, je dois avouer. Parce que pour moi, c'est une université comme une autre. Université où on vient et on fait son travail comme on ferait n'importe où.
More than 40 years since she was crowned Miss Fire Prevention of Nashville, Tennessee. In the land of the Grand Ole Opry, we proudly honor Oprah Winfrey.
Oh my goodness! To President Faust, my fellow honorans, Carl, that was so beautiful. Thank you so much. All of you alumni, with a special bow to the class of 88 and your $115 million. And to you, members of the Harvard class of 2013. Hello.
Merci à Michel Antoby, professeur associé de sociologie à Harvard Business School et auteur du livre « Manufacturing Morals » édité aux Presses universitaires de Chicago. François Proux, assistant professeur au département de littérature comparée. Randall Kennedy, professeur de droit. Samuel Harvey, visiting student. Bobby Samuels, étudiant et président du Harvard Crimson. Louis Seed, Félix de Rosen, Nicolas et Mathieu, étudiants au collège de Harvard. Sylvie Laurent, enseignante à Sciences Po et chercheuse à l'Institut Dubois, le Centre d'études africaines-américaines de Harvard. Et merci à Patrick Autréau et Philippe Lecor. Le roman dont Samuel Harvey a lu un extrait s'appelle « Guerre à Harvard ». Il est signé Nick McDonnell et publié chez Flammarion. Avec les voix de Laura Talent et Aurélia Petit, traduction Laura Talent, attachée de production Sylvia Favre, productrice coordinatrice Catherine Libert. Villemonde, Harvard, la formation d'une élite, un documentaire de Virginie Bloch-Lenné, Charlotte Roux, Mathieu Leroy, réalisé avec le soutien de l'Office du tourisme du Massachusetts.
Notre voyage continue sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter et podcaster Harvard, Villemonde et toutes nos escales à travers le monde. Fin du tour du monde radiophonique de l'été. L'aventure Villemonde continue à la rentrée sur France Culture le dimanche à 15h. Après l'été, dans des villes près de l'eau, traversée de l'océan Atlantique, cap vers le détroit de Gibraltar et Tanger sur la mer. Rendez-vous à Tanger, Villemonde, première escale, dimanche 6 septembre à 15h. Invitation au voyage.